Nous venons de chanter, de louer notre Dieu avec de la musique. La musique est partout. Radio, télé, grands magasins, en voiture, autoradio. Dans la rue, la musique prend diverses formes, de rythmes, de buts. Bref, la musique fait partie de notre quotidien. On l'a partout. Et la première, celle du matin, c'est celle du réveil matin, enfin, si vous en avez un, évidemment. Et certainement que celle la plus répandue est celle du GSM. On a la musique partout, partout, partout. Mais qu'en est-il dans la parole de Dieu? Je ne vais pas faire une étude complète parce que ce n'est pas possible. Il faudrait couper. Mais on va un peu survoler. Je vous propose une première lecture dans le livre de la Genèse. Genèse 4, 17 à 26. Caïn connut sa femme. Elle conçut et enfanta Hénoc. Il bâtit ensuite une ville et il donna à cette ville le nom de son fils Hénoc. Hénoc engendra Irad. Irad engendra Mehujael. Mehujael engendra Métushael. Et Métushael engendra Lémec. Lémec prit deux femmes. Le nom de l'une était Ada et le nom de l'autre Tsila. Ada enfanta Jabal. Il fut le père de ceux qui habitent sous les tentes et près des troupeaux. Tsila, de son côté, enfanta Tubal-Caïn, qui forgeait tous les instruments d'airain et de fer. La sœur de Tubal-Caïn était Naama. Verset 25. Adam connut encore sa femme, elle enfanta un fils, et l'appela du nom de Seth. Car, dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel, que Caïn a tué. Seth eut aussi un fils, et il l'appela du nom d'Enoch. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Et une deuxième lecture, cette fois-ci dans le Nouveau Testament, dans l'Épître aux Colossiens, chapitre 3, versets 16-17. 16-17. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Jusque-là, les lectures. Prions. Père, encore une fois, nous voulons nous mettre tout petit devant ta parole, tout petit devant toi, pour écouter. Écouter ce que tu as encore à nous dire. Seigneur, que pour ma part, je sois simplement le haut-parleur de ton message. Et que nous soyons touchés, moi le premier, par ta parole, au nom de Jésus. Amen. J'ai voulu lire le texte de Genèse dans la version seconde, parce qu'il traduit le mot « chalumeau ». Ce mot n'est que 4 fois en hébreu et 4 fois en araméen. Dans le verset 21, il est traduit dans notre texte par « chalumeau ». D'autres versions rendent « flûte ». Je pense que la version d'Arbi rend une flûte. Donc, on n'a pas trop la différence entre le chalumeau et la flûte. Vous allez me dire, la différence, il n'y a pas vraiment. Mais en hébreu, vous savez toujours qu'il y a plusieurs mots. Et il y a 2 mots en hébreu pour désigner la flûte ou le pipeau. Et je ne sais pas vous, mais vous avez peut-être appris à jouer de ce fameux pipeau, la fameuse flûte à bec. Et le chalumeau, lui, hein, bon, pour ceux qui savent un peu ce que c'est, n'est pas un instrument pour souder, mais bien un instrument de musique. Il est le même titre que la harpe, qui est la harpe, qui est l'ancêtre des instruments à cordes. Le chalumeau, lui, est l'ancêtre de l'orgue à tuyaux. En effet, les notes des grandes orgues, que l'on retrouve dans la plupart des églises catholiques et dans certaines protestantes, sont produites par des grandes flûtes. Il n'y a pas de trou sur la flûte, il n'y a qu'un seul, un biseau, je pense qu'on appelle ça. Et ça ne donne qu'une seule note. Donc voilà, un peu très résumé, la partie technique. Pour l'histoire, l'orgue, tel qu'on le connaît maintenant, est arrivé de Byzance vers l'an 800. Et on a retrouvé des traces de son prédécesseur qu'on appelait l'hydrole. Hydrole qui a rapport avec l'eau, parce que les notes étaient régulées par l'eau. Et on a retrouvé de ces hydroles, des traces, à Pompéi et à Rome, dans les fameux amphithéâtres, les amphithéâtres des Jeux. Et à l'époque, on jouait de l'orgue, si on peut dire, de l'hydrole, pour étouffer les cris des spectateurs, de joie, les cris de joie, mais surtout les cris de détresse des chrétiens qui se faisaient manger par les lions. Quel contraste! Quel contraste avec l'instrument qu'on connaît généralement, qui rend gloire à Dieu plutôt que d'étouffer la voix des chrétiens. Maintenant, que tirer comme enseignement d'un tel paradoxe? Si on revient à notre texte, au verset 20 et 21, Genèse 4, Adam enfanta Jabal. Il fut le père de ceux qui habitent sous les tentes et près des troupeaux. Et le nom de son frère était Jubal. Il fut le père de tous ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau. Apparemment, Jabal était l'ancêtre des nomades et des éleveurs de bétail. Et Jubal, son frère, est l'aïeul de tous les musiciens, tout ce qui souffle et qui joue de l'art. Et si vous remontez la lignée, ils sont tous les deux descendants de Cain. Cain, l'assassin d'Abel, son propre frère. Devons-nous en conclure que toute cette lignée est maudite et tout ce qui descend aussi? Par contre, ce que nous avons lu, l'union d'Adam et Ève est née un troisième enfant que Dieu a donné en remplacement d'Abel et son nom est Seth, S-E-T-H, comme vous avez vu dans votre Bible. Et c'est par cette descendance que vous avez repéré qu'on a commencé à invoquer le nom de l'Éternel. En hébreu, il n'y a pas de différence entre commencer et recommencer. Donc, on suppose que c'est un recommencement, parce qu'on suppose, c'est une supposition, qu'Adam et Ève, quand même, invoquaient le Dieu éternel. Mais peut-on dire que par cette lignée, seul Dieu a été glorifié? S'il en était comme ça, de ces deux lignées, ben, il ne pourrait jamais chanter et jouer en même temps. On ne pourrait pas, nous, jouer de la musique et chanter et louer Dieu en même temps, vu que les deux lignées sont une mauvaise et l'une bonne. Toi, t'es de Caïn, donc t'es pas bon. Mais tu peux jouer de la musique. Bizarre. Toi, Seth, tu peux louer et adorer seulement. Pas d'instrument. Il y a quand même des choses qui ne sont pas claires. Si nous regardons dans notre remontée du temps, il ne faut pas oublier une chose, le déluge. Ah, le déluge, en effet. Après le chapitre 4, il y a le chapitre 5, c'est logique, il n'y a qu'une qui suit, qui nous rapporte la généalogie de Seth, la descendance de Seth, jusque Noé. Noé et ses trois fils, Sem, Cam et Japheth. Donc selon la Bible, n'ayant sauvé que 8 personnes, l'arche n'a sauvé que 8 personnes, nous sommes donc tous descendants de Noé, vu que le reste, plus rien à voir avec Cain. Pourtant, le mal est toujours là. Mais qu'en est-il des gens qui habitent sous les tentes? C'est un peu la même chose. Ils sont de la lignée de Cain. Et surtout, ce qui nous intéresse, les musiciens, ces fameux joueurs de chalumeaux. Est-ce que le chalumeau aurait péri avec le déluge? Ah, on n'aurait pas d'instrument de musique, on n'aurait rien du tout. Bien sûr que non. Dieu est quand même le créateur de tout. Et même de la musique. Et il a quand même donné à l'homme la capacité de faire de la technique et de fabriquer encore ces instruments de musique. Et oui, le chalumeau, l'instrument de musique, je le répète, a poursuivi sa route et nous le retrouvons dans les psaumes. Le dernier psaume, psaume 150, je vous le lis en entier. Louez l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire. Louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Louez-le pour ses hauts faits. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Louez-le au son de la trompette. Louez-le avec le luth et la harpe. Louez-le avec le tambourin et avec des danses. Louez-le avec des instruments à cordes et le chalumeau. Louez-le avec des cymbales sonores. Louez-le avec des cymbales retentissantes. Que tout ce qui respire loue l'Éternel, louez l'Éternel. Ce cantique nous invite à louer notre Dieu de toutes les manières possibles qui expriment la joie. Louer l'Éternel avec joie. On a envie de chanter, de danser quand on est heureux. Je ne sais pas vous, mais, fête de mariage, ouais, on y va. Tout le monde danse. Alors, nous devons louer l'Éternel en étant heureux. Heureux d'être en vie, c'est un minimum. Heureux d'être ici aujourd'hui, parce qu'on pourrait être très mal ailleurs. Être heureux d'être sauvé pour l'éternité. Est-ce qu'on est heureux d'être sauvé pour l'éternité ? Heureux d'être simplement un enfant du Père. Un enfant du Père céleste. C'est l'apôtre Paul qui nous recommande, entre autres dans le texte que nous avons lu dans Colossiens 3, 16, « Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des cantiques, par des hymnes, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Soyez heureux. » La musique et le chant, c'est communicatif. Quelqu'un qui siffle, on entraîne. On connaît. Quelqu'un qui chante, il est heureux. Il entraînera automatiquement la joie. Combien est apaisant un morceau de violon ? Il faut aimer, mais c'est tellement beau, c'est tellement doux. C'est un exemple. Tout le monde a entendu. La musique adoucit les mœurs. Proverbe issu apparemment des écrits de Platon, mais déjà expérimenté quand même dans les récits bibliques. David, le jeune berger et pas encore roi, jouait de la harpe auprès du roi Saül pour calmer ses démences. Le jeune David, par sa musique, adoucissait le grand roi qui est tombé bien bas, Saül. Et puis dans les livres de Job, là c'est une toute autre utilisation de la musique. C'est les méchants qui utilisent la musique pour se réjouir. Dans Job 31:12, voilà ce qu'il nous est dit. Les méchants chantent au son du tambourin, de la harpe, et ils se réjouissent au son du chalumeau. Tandis que Job, lui, trinque. Au chapitre 30, verset 31, voilà ce qu'il est dit. Job dit « Ma harpe n'est plus qu'un instrument de deuil et mon chalumeau ne peut rendre que des sons plaintifs. » Là encore, des extrêmes dans la musique pour un même instrument. Mais la fonction d'un instrument de musique dédié à autre chose que la gloire de Dieu est très marquante dans le livre de Daniel. Et cette fois-ci, c'est quatre fois en araméen, que le mot « chalumeau » est traduit. Et oui, il y a parfois des morceaux d'araméen dans l'Ancien Testament. Daniel 3, chapitre 3, verset 5, « Au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psaltérion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or qui a été élevée par le roi Nebuchadnezzar. » C'était une sorte d'annonce. Ça sonnait, il fallait absolument adorer l'idole. Dans d'autres cas, un cas quand même plus joyeux, le retour de Christ se fera au son de la trompette. Au son de la trompette, vous avez bien vu dans les films, et le roi qui arrive, ça, c'est une bonne utilisation. Contraire à celle du livre de Daniel. Et encore une fois, dans nos exemples, ce sont deux utilisations opposées. À ce stade de notre partage, j'aimerais nous poser une question. À quel son d'instrument répondons-nous ? La musique de la joie, des réjouissances de ce monde, les alertes d'adoration d'idoles, ou les instruments de louange pour notre Dieu ? Où entendons-nous cette trompette ? Du retour de notre Seigneur. Pouvons-nous encore nous réjouir au son des instruments qui voient le Fils prodigue revenir à la maison ? Il y a d'innombrables exemples, et bien évidemment, bibliques et dans la vie courante de l'utilisation de la musique, mais j'y arrive. Il y a un instrument que Dieu nous a donné, qu'on n'a pas fabriqué, mais que lui a fabriqué. C'est là. La langue, ce petit muscle qui permet de communiquer, de parler, de chanter, de crier, mais aussi de goûter Oh, on a écrit des centaines de livres sur le sujet et la Bible n'est pas en reste. La fin de notre texte nous indique que c'est dans la lignée de Seth que l'on invoqua le nom du Seigneur. Je ne vois pas d'autre moyen d'invoquer le nom du Seigneur que par ma bouche et ma langue. Et quand le psalmiste et Paul parlent de louer l'Éternel, c'est évidemment avec mes cordes vocales et ma langue. Mais d'autres textes parlent autrement de ce petit instrument. Jacques 3, versets 4 et 5, « Voici même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre et il se vante de grandes choses. Voici comment un petit feu peut embraser une grande forêt. » L'actualité nous montre que les dégâts des feux qui se passent partout ont commencé par une petite brindille, donné une grande incendie. De même, nos paroles peuvent parfois démarrer un incendie de rumeurs. Et j'ai une petite histoire comme ça qui me vient en tête. Il y a une fois une dame qui vient trouver le pasteur, écoutez, pasteur, j'ai un problème, c'est que je parle trop et puis... J'ai divulgué des choses qui ne sont pas vraies, des rumeurs qui ne sont pas vraies. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce qu'on peut me pardonner? Le pasteur dit, vous prenez votre oreiller avec les plumes. Ah, d'accord. Vous montez sur le toit du plus haut building et vous jetez le coussin comme ça, toutes les plumes parties. Ah oui, et après vous les ramassez. C'est impossible. Oui, c'est impossible. Impossible de rattraper une rumeur qui a fait déjà des dégâts. Impossible. Alors mieux vaut ne pas divulguer. Et Jacques continue au verset 9 et 10 du chapitre 3 concernant la langue. Par elle, nous bénissons le Seigneur, notre Dieu. Et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi, mais au contraire, instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans la joie. Et pour terminer, avez-vous remarqué parfois qu'à la sortie des cultes, rarement on parle du moment qu'on vient de passer. On partage nos bobos, la dernière finale de foot, le transfert de Messi. Nous parlons de la pluie du beau temps, mais pas souvent de quelques instants qu'on vient de passer. À peine la bénédiction prononcée, que nous sommes déjà les pieds sur terre. Boum. Et dans la situation actuelle, quelqu'un m'a fait remarquer que les chrétiens ne s'embrassent plus. Apparemment, on serait peut-être pestiférés. Mais je pense qu'apparemment, les inconvertis font davantage confiance au vaccin que ceux qui ont foi en un Dieu super puissant, créateur de toute chair et qui est maître de l'univers, immensément grand et infiniment petit, y compris les bactéries et les virus. En conclusion, que les instruments soient l'œuvre de Caïn, des descendants de Caïn, la musique vient de Dieu. Que l'invocation de l'Éternel commence ou recommence à la suite du troisième fils d'Adam, elle n'en est pas moins vivante après le déluge. Que les instruments de musique soient de fabrication humaine, c'est l'utilisation qu'on en fait qui pose problème. De même que la langue fasse partie du corps humain créé de toutes pièces par Dieu, c'est aussi son utilisation qui pose problème. La fin de ma conclusion sera laissée à l'apôtre Paul, qui nous donne comme commandement à suivre à la lettre, Colossiens 3, 17. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Amen. Seigneur, encore une fois, peut-être... Ta parole est parfois tranchante, mais ta parole est ta parole. Seigneur, qu'elle touche vraiment nos cœurs, qu'elle touche mon cœur, pour surtout être à ta gloire. Et que tout ce que je fais, tout ce que je dis, soit pour toi, pour ta gloire, dans le nom de Jésus. Amen.